Wikipédia, siège de Tripolisa. Le siège de Tripolisa entre mai et octobre 1821 fut un épisode clé de la guerre d'indépendance grecque. La prise de Tripolisa, capitale ottomane du Péloponnèse, fut la première grande victoire des Grecs insurgés, sous le commandement de Teodoro Kolokotronis. Les combats se résumèrent longtemps à des escarmouches. Les quelques tentatives de sortie se soldèrent par des échecs. Une reddition était en négociation à l'automne quand des Grecs pénétrèrent par surprise dans la ville le 5 octobre. La quasi-totalité de la population turque fut alors massacrée. On estime qu'un peu plus de 30 000 personnes, hommes, femmes et enfants, devaient s'y trouver au début du siège. En octobre, la population était tombée à 15 000, suite aux nombreux décès à cause des combats, de la famine ou des épidémies, mais grâce aussi à quelques évacuations. Après la reddition de la ville, les troupes grecques exterminèrent près de 8 000 personnes et pillèrent la cité. Contexte. La guerre d'indépendance grecque. La guerre d'indépendance grecque fut une guerre de libération contre l'occupation ottomane. Les affrontements principaux eurent lieu en Épire, autour d'Athènes et surtout dans le Péloponnèse. Ali Pacha de Janina, le gouverneur ottoman de la région de l'Épire, qui cherchait à assurer définitivement l'indépendance de ses possessions, s'était révolté contre le sultan Mahmud II en 1820. La porte, non parfois donnée au gouvernement de l'Empire ottoman, avait dû mobiliser toute une armée autour de Ioannina. Pour les patriotes grecs organisés dans la Filiki Etheria et qui préparaient le soulèvement national depuis la fin du XVIII siècle, cette rébellion rendait le moment favorable. Il y avait potentiellement moins de soldats turcs disponibles pour réprimer leur soulèvement. L'insurrection fut déclenchée dans le Péloponnèse. Elle commença entre le 15 et le 20 mars 1821 sous la double impulsion de Teodoro Kolokotronis, un des chefs de l'insurrection, et de l'archevêque de Patra, Germanos, qui proclama la guerre de libération nationale le 25 mars. Au même moment, Alexandre Ypsilanti pénétrait en Moldavie et Valachie, second foyer prévu pour l'insurrection, à la tête d'une troupe composée de membres de la Filiki Etheria installée en Russie. L'Empire ottoman réduisit l'insurrection dans les provinces danubiennes en 9 mois, alors qu'en Grèce même les insurgés triomphaient. Les combats dans le Péloponnèse. Les communications dans le Péloponnèse, région montagneuse, étaient beaucoup plus faciles par mer que par terre. Les principaux ports étaient contrôlés par des forteresses qui constituèrent les premiers objectifs des révolutionnaires grecs. Patra, protégée par les châteaux de Mré et châteaux de Roumélie, sur le golfe de Corinthe, et le château de Chlomoutsi au sud, Corinthe et l'Acrocorinthe, n'oubliez le fort Palamède, le rocher fortifié de Monemvasia, les anciennes places fortes vénitiennes de Coron et Modon, et enfin les deux forts de Névarin. Ces places prises, la seule route d'entrée devenait l'isthme de Corinthe, plus facile à contrôler. Quant à Tripolisa, elle tenait l'intérieur de la péninsule. Dès le 18 mars, Julien, des combats s'étaient déroulés près de Calavrita au nord de la péninsule, qui fut prise le 21 mars, Julien. Le 23, ce fut le tour de Vostiza au nord, et Kalamata au sud, tandis que la région de Caritena en Arcadie se soulevait. Le 25 mars, Julien, tandis que Germanos proclamait le soulèvement national à Patra, un des gérontes de Tripolisa, Anagnoste Kontak organisait un camp militaire à Vervena, en Arcadie, pour surveiller les mouvements des troupes ottomanes et protéger la région d'une potentielle contre-attaque. Le 26 mars, Julien, Pyrgo en Élide se révolta ainsi que la région de Gastounie, nord-est du Péloponnèse. Le 28, le siège de Monemvasia, où 500 Turcs avaient trouvé refuge, commença. La ville ne fut prise que le 23 juillet, Julien, à un moment où le moral des insurgés était au plus bas, à cause des difficultés du siège de Tripolisa. Le lendemain, à Agio Athanasio, près de Caritena, Teodoro Kolokotronis, à la tête de 300 maniotes, affronta durant 6 acheux, Urin, 700 soldats ottomans, venus d'Andrizena. Ce fut la première véritable bataille de la guerre. Les Ottomans reculèrent. Kolokotronis les poursuivit, les affronta et les vainquit à nouveau au passage de l'Alphée, près de Chazlaga. 2 jours plus tard, les Turcs qui avaient été défaits par Kolokotronis, après avoir été rejoints par 500 autres soldats, prirent et brûlèrent le village de Salossie. Ce fut la première exaction de la guerre. Elle fut bientôt suivie de la reconquête de Patra par Yusuf Pacha qui en fit massacrer la population avant d'y mettre le feu, le 3 avril, Julien. Le lendemain, commençait le siège de Nauplie, par des troupes terrestres d'un côté, mais aussi par les navires de Bouboulina de l'autre. Le 15 avril, Julien, selon l'historiographie grecque, 70 Grecs auraient été assiégés par 3,000 fantassins et cavaliers turcs dans le village de Lavidi. Une sortie grecque aurait mis les assiégeants en déroute. Ils se seraient enfuis jusqu'à Tripolisa. Un nouvel état en gestation. Les Grecs avaient en parallèle commencé à organiser des gouvernements locaux dans les diverses régions insurgées, afin de préparer la suite et de disposer d'instances dirigeantes de l'indépendance. Un sénat, ou gérousia, du Péloponnèse se mit en place de façon spontanée d'abord à Kalamata, sous la forme d'une gérousia de Messénie le 6 avril 1821, puis dans les montagnes de la Conie le 7 juin, pour l'ensemble de la presqu'île. Il s'agissait d'une assemblée de notables, bourgeois, prêtres, chefs de guerre, représentatives mais non élus. Des assemblées locales existaient dans les autres régions? Le sénat du Péloponnèse s'était fixé comme objectif la prise de Tripolisa. Il avait ensuite prévu de se dissoudre et de convoquer une assemblée pour l'ensemble de la Grèce. Dès le 28 avril, Julien, Kolokotroni avait été nommé commandant en chef, archistratigo, de la région de Caritena, avec pour objectif la coordination des opérations militaires autour de Tripolisa en vue de prendre la ville. Tripolisa. La ville fut fondée vers le Xe siècle pour remplacer les trois villes dépeuplées de Mantinée, Tégée et Palancion. Elle était capitale ottomane du Péloponnèse, dont elle devint aussi la plus grande des villes. Elle est située au milieu d'un plateau à 650 mètres au-dessus du niveau de la mer, entourée à l'ouest et au nord, par un amphithéâtre de montagnes, la chaîne des Tricorpha, et par des marais au nord. Elle avait déjà été assiégée par des Grecs insurgés en 1770, lors de la Révolution d'Orlov. Là, les Ottomans victorieux avaient massacré la population grecque de la ville. Tripolisa était une ville pratiquement intégralement turque. D'après François Poucoiville, c'était l'évêché du Péloponnèse qui rapportait le moins et qui disposait du plus petit nombre de popes. En 1821, elle était protégée par une enceinte épaisse de 2 mètres à la base et de 70 cm au sommet, haute d'un peu plus de 4 mètres, avec une courtine et des tours, dont certaines avec des canons et des demi-lunes à intervalles réguliers tout au long de ses 3,5 km de circonférence. La muraille, dont le tracé était irrégulier, était percée de 6 portes. Il y avait encore un petit fort carré, le grand bastion, à l'intérieur des murs, sur une hauteur au sud-ouest. Cependant, elle était un objectif relativement plus facile que les autres forteresses du Péloponnèse. Au milieu d'une plaine alors que les autres étaient bien souvent sur des sommets escarpés, entourés d'un simple mur de pierre, Cancoron et Modon avaient été fortifiés par des ingénieurs vénitiens s'inspirant de Vauban, et surtout au milieu des terres, sans espoir d'être secouru par la mer. Enfin, Tripolisa, en tant que capitale politique ottomane de la péninsule, abritait de nombreux riches turcs. L'objectif était donc politique et financier. La population de la ville avait doublé dès le début de la guerre, pour atteindre, selon les sources, entre 25,000 et 34,000 habitants. Les Turcs du Péloponnèse, effrayés par les événements, combats et meurtres des trois premières semaines de l'insurrection, cherchèrent à se réfugier, avec leurs femmes et leurs enfants, dans les villes fortifiées. Ceux de Laconie et d'Arcadie, autour de 2,600 personnes se rendirent, logiquement, à Tripolisa. Tous les Grecs s'en étaient enfuis hormis 38 otages dont 5 évêques qui s'étaient rendus à la convocation biannuelle par les autorités ottomanes. Le siège. Les préparatifs. Dans la ville. Au début du mois de mai 1821, Kursi Pacha, gouverneur du Péloponnèse occupé, alors a maté la rébellion d'Ali Pacha en Épire, envoya des troupes, commandées par son que Eyabe, lieutenant-gouverneur, Mustapha, renforcer la ville où elles arrivèrent le 12 mai. Parmi les renforts, se trouvaient 500 Albanais musulmans considérés comme des troupes d'élite, car encore invaincus. La garnison de la ville atteignait alors 9,000 à 10,000 hommes, dont un corps de cavalerie et une centaine d'artilleurs envoyés spécialement de Constantinople pour servir la trentaine de canons de la ville, seuls 7 étaient encore utilisables, après de nombreuses réparations à la fin du siège. Chez les assiégeants. Dans le même temps, les troupes grecques étaient de plus en plus nombreuses dans les camps autour Tripolisa, passant de 2,000 début mai à plus de 6,000 au début de l'été. Néanmoins, les Grecs ne disposaient pas de cavalerie et leur artillerie était réduite à une demi-douzaine de canons et de mortiers. Ils n'avaient pas non plus de service de santé qui puisse soigner les blessés. Les palicares se trouvaient dans les villages à la limite entre les montagnes et la plaine à l'ouest de la ville. du nord au sud, Lovidi, Piana, Krizovici, Valtestsi et Vervena. Il y avait quatre corps principaux. À l'aile gauche, 2,500 hommes sous les ordres de Colocotre Eni, au centre, 1000 commandés par Anagnostara, à droite 1,500 sous Giatraco, et en réserve 1,500 autres commandés par Petrobé. Deux corps de 150 et 300 hommes surveillaient les routes d'Argos et Nauplie, au nord et de Kalamata au sud. Todoro Colocotre Eni mit aussi cette période à profit pour imposer une réorganisation des troupes grecques. Jusque-là, les insurgés appartenaient à une bande très souvent familiale, comme du temps où ils étaient cleftes, et obéissaient au chef de celle-ci, très souvent l'aîné de la famille. Leur armement était rudimentaire, le plus souvent un couteau voire des outils agricoles reconvertis. Fer de bêche par exemple. Il n'y avait aucune coordination entre les bandes dont les chefs poursuivaient des objectifs personnels. Le ravitaillement était assuré par les femmes. L'archistratigo, qui avait suivi une formation militaire dans les troupes britanniques des Ilioniennes, dans lesquelles il avait atteint le grade de major, imposait un mode de fonctionnement plus rationnel. Les chefs de bande furent officiellement nommés « officiers » par un brevet écrit. Ils devaient fournir un décompte exact du nombre d'hommes constituant leur groupe. Cela évita qu'ils le gonflent afin d'obtenir plus d'armes, plus de nourriture et plus d'argent pour les soldes. Cela empêcha aussi que les hommes retournent chez eux sans qu'on le sût. Colocotre Eni imposa enfin son commandement centralisé, une certaine discipline dans les bandes et une coordination entre celles-ci. Le problème du ravitaillement. Les villages et les villageois d'Arcadie furent chargés de ravitailler les assiégeants. Les ânes et les mulets firent la navette avec le pain. Charithéna se spécialisa dans la fourniture de bétail, chèvres et moutons. 48,000 bêtes auraient été consommées par les troupes grecques. Dimicena fournit la poudre et fut exonéré de tout autre prélèvement. Les bibliothèques des monastères voisins donnèrent à leur corps défendant le papier nécessaire aux cartouches. Les balles furent fondues à partir du plomb retiré des toits. Comme toute ville assiégée, Tripolisa aurait dû souffrir de problèmes d'approvisionnement. Les Grecs empêchèrent l'eau d'arriver à la ville. Des récits évoquent un empoisonnement de l'eau des aqueducs avec une plante de la famille des digitales. Cette légende peut avoir un fond de vérité, mais il est peu probable que le poison ait eu un effet quelconque en raison des quantités énormes qu'il aurait fallu verser. Cependant, la rumeur aurait pu créer une panique parmi les assiégés. De plus, la ville disposait de puits en quantité suffisante pour son approvisionnement en eau. Très vite, les soldats albanais s'emparèrent des puits et en taxèrent l'utilisation. La ville connut aussi assez peu de problèmes de nourriture. La nuit, les Maniotes installaient des marchés au pied des remparts et vendaient, à prix d'or, pain et fruits aux Turcs assiégés. Ce fut un échange commercial de ce genre qui le 5 octobre entraîna la prise de la ville. Jusqu'à la fin du mois d'août, la cavalerie ottomane effectuait des sorties de razzia, pillait des villages à quelques kilomètres de la ville et rapportait de quoi la nourrir. Les troupes de Todoro Colocotre Eni finirent par y mettre fin. Tripolisa commença alors seulement à manquer de nourriture. Les chevaux de la cavalerie, devenus inutiles et manquant de fourrage, furent alors mangés. Les premiers combats. Le 24 mai, 12 mai Julien, les Turcs de Tripolisa tentèrent une sortie pour raser le camp commandé par les Mavromichali et Valtesi. Le village se trouvait au centre du dispositif grec, sur une petite colline. C'était aussi le plus proche de la ville. Il avait été sommairement fortifié. L'église était le principal, point fort et en avant, trois tambourias, redoute. Consistant en un mur d'un mètre de haut percé de meurtrières, avait été construite. Mustapha Bey, le Kehaya Bey, qui gardait autour de lui en réserve ses 500 cavaliers, avait prévu une attaque en tenaille. Une colonne de 3,500 hommes attaquant par le sud, une autre de 1,000 hommes par le nord, et une troisième de 600 hommes prévus pour prendre à revers les Grecs, qui ne pourraient manquer de se replier, en abandonnant Valtesi. Les Grecs ne se replièrent pas comme l'avait espéré le commandant ottoman. Ils résistèrent au contraire. De plus, sa cavalerie ne lui fut d'aucune utilité pour attaquer des redoutes au sommet d'une colline. Il en fut d'eux, même pour son artillerie, dont les servants ne se montrèrent pas capables d'atteindre les fortifications grecques. Colocotre Eni arriva au cours de la journée avec 200 hommes en renfort du camp de Krizovici. À la tombée de la nuit, la décision n'était toujours pas faite. Chacun des adversaires avait espéré que l'autre se replierait avec l'arrivée de la nuit. Des nouveaux renforts grecs, 800 hommes, arrivèrent dans la nuit, prenant les Ottomans à revers. Mustapha Bey ordonna le repli. Les Grecs firent alors une sortie, qui transforma le repli en déroute. La poursuite grecque fut ralentie par le pillage. Les Turcs abandonnant armes et bagages, les Grecs s'arrêtaient pour les ramasser. La bataille avait duré 23 heures. Les Turcs auraient laissé derrière eux 300 morts et 500 blessés. Les Grecs auraient perdu 150 hommes, même s'ils ne reconnurent que 4 morts et 17 blessés. Cette victoire grecque fut importante psychologiquement. Elle montra que les insurgés ne s'effondraient pas à la première démonstration de force ottomane, comme la porte l'avait espéré. Elle montra aussi que la réorganisation des troupes imposées par Kolok Otroni était justifiée. Le 18 mai, Julien Mustapha Bey, à la tête de 8 à 10,000 hommes, tenta une nouvelle sortie avec pour objectif Vervena. 300 Grecs commandés par Niketara les rencontrèrent à Doliana. Les Turcs furent mis en déroute. Niketara y gagna son surnom de Turkofago, le mangeur de Turcs. Le 21 mai, Julien Kolok Otroni prit le village de Zarakova, qu'il transforma en dépôt pour l'ensemble des opérations. Dmitri Oplaputa, avec des troupes venues des camps de Krizovici, et Piana s'empara de Trikorfa. L'étau autour de Tripolisa se resserrait. Cependant, la situation se figea. Assiégés et assiégeants furent longtemps incapables de faire la différence. Les combats entrèrent dans une sorte de routine quotidienne, consistant principalement en des échanges d'insultes. Dès que quelque chose dépassait des fortifications d'un côté ou de l'autre, il était accueilli par une volée de balles venues du camp adverse. Il arrivait que ce ne fût qu'un chapeau au sommet d'un bâton servant ainsi de distraction aux soldats. Lorsque la chaleur du jour devenait trop forte, juste après le zénith, les hommes venus des deux camps se retrouvaient à l'ombre, au pied des remparts pour discuter et fumer. Les difficultés grecques. Fin juin, Dimitrio Ypsilanti rejoignit les troupes grecques à Tripolisa. Son arrivée divisa les Grecs. Une partie le soutint, malgré la désastreuse défaite subie par son frère Alexandre dans les provinces danubiennes. Une deuxième partie resta fidèle à Teodoro Kolok Otroni. Une troisième partie était constituée de l'ancienne classe dominante grecque, clergé et propriétaires terriens, qui avaient acquis leur fortune et leur pouvoir au service de l'occupant ottoman. Ces chefs, civils ou primats, proesti ou prokriti en grec, et kojabashi en turc, n'avaient apporté leur soutien à l'insurrection nationale que parce qu'ils désiraient remplacer l'autorité ottomane par la leur. Ils virent alors dans l'arrivée d'Ypsilanti un moyen de diminuer l'aura de Kolok Otroni et des militaires. Les futures guerres civiles entre insurgés grecs étaient donc déjà en germe lors de ce siège. Les hommes de Kolok Otroni ne tardèrent à proposer à leur chef l'élimination physique des primats. Dès son arrivée à Tripolisa, Ypsilanti suggéra de remplacer le Sénat ou Gérousia du Péloponnèse par un gouvernement dont il serait le chef. Il demandait aussi à être nommé commandant en chef des forces armées grecques. Il déclencha alors la colère des civils et des militaires, créant une alliance de fait entre les primats et Kolok Otroni. Cette entente, temporaire, évita alors la guerre civile et le massacre des primats par les hommes de Kolok Otroni. Un compromis fut finalement trouvé. Le 1er juillet, Julien, le Sénat du Péloponnèse, réunit à Trikorfa, Nema Ypsilanti à sa tête. Ce rôle faisait aussi de lui, comme pour d'autres chefs d'État, le commandant en chef des forces armées grecques. Kolok Otroni conservait le commandement réel. Dernier combat et pourparlers. La prise de Monemvasia le 23 juillet permit aux insurgés grecs de s'emparer de matériel militaire ottoman, dont 3 mortiers et quelques autres canons, qui furent envoyés aux assiégeants de Tripolisa. Les témoins et les récits du siège évoquent le rôle que tenta de jouer à ce moment-là un Italien nommé Tassi, originaire de Plaisance. Ruiné dans des opérations commerciales à Smyrne, il se fit philhellène et officier du génie. Il se fit nommer M.A. ingénieur en chef. Il se disait envoyé comme agent secret par des personnages puissants et aux places et prêts à aider la Grèce insurgée dès qu'ils auraient reçu ses rapports favorables. Il laissait échapper, comme par mégarde, Metternich, Castelrag ou Capodistria. Il affirmait qu'il était expert en artillerie et il se chargea de tester les mortiers avant de les utiliser contre la ville. Il en fit exploser un qui endommagea les deux autres. Il fut alors considéré comme espion par les Grecs. A. S. P. Et se trouva en danger de mort. Ypsilanti exfilt. Ra, discrètement 2 jours plus tard pour lui sauver la vie. Les canons restants furent confiés au philhellène français, le colonel Maxime Reibo. Cependant, il ne put les installer de façon à ce qu'ils menacent la ville. Début septembre, le philhellène écossais Thomas Gordon, accompagné d'Olivier Voutier, amena à Tripolisa des troupes, l'embryon de la future armée régulière grecque organisée sur l'ordre d'Ypsilati, par le philhellène français, Ballesta Kalamata, 600 fusils français et 3 obusiers. Leur maniement fut aussi confié au philhellène français Raibo. Cependant, les canons qu'il fallut d'abord réparer, puis monter sur des affûts, ne furent pas très efficaces contre les murailles de la ville. Quant à Gordon, il avait organisé une compagnie de philhellènes et de grecs qu'il payait sur ses propres deniers et dont il faisait l'instruction militaire. Dès son arrivée en juillet, Ypsilati avait suggéré à la ville de se rendre. La proposition avait été rejetée. Le 10 août, Julien, Mustapha Bey tenta une dernière sortie. Ses troupes se heurtèrent au fossé que Colocotre Eni avait fait creuser autour de Tripolisa pour justement parer à cette éventualité. Le sort de la ville était joué. À la fin du mois, les forces grecques étaient devenues encore plus nombreuses. Les estimations varient entre 10,000 et 20,000 hommes attirés par la perspective du pillage. Le 26 août, Julien, Yanigoura à la tête de 2,000 palicares avait repoussé 8,000 soldats ottomans envoyés soulager Tripolisa au col de Vasilika près de Livadia. Lorsque la nouvelle que l'aide ne viendrait pas atteignit la ville assiégée, des divisions commencèrent à s'y faire sentir. Le Kehayabé Mustapha suggéra de tenter une dernière sortie et de se frayer un chemin jusqu'à Nopli. Les Albanais envisagèrent de négocier un accord séparé avec les Grecs qui achèteraient leur départ pour ne pas avoir à les combattre. Les bourgeois turcs pensaient aussi à la reddition, quitte à abandonner tous leurs biens, pour avoir la vie sauve. Le 24 septembre, les otages grecs encore aux mains des Turcs dans la ville, écrivirent à la demande de ceux qui les détenaient une lettre aux assiégeants. Cette lettre demandait la reddition immédiate, et sans condition des insurgés grecs, s'ils désiraient obtenir la clémence du sultan. Les exigences étaient bien sûr hors de toute proportion, mais il s'agissait seulement alors d'engager le dialogue. Les négociations officielles commencèrent 2 jours plus tard. Les Grecs, pour montrer qu'ils étaient en position de force, y arrivèrent avec 1 heure de retard. Les négociateurs turcs, tous âgés, étaient menés par un ouléma, Cheikh Njib Efendi, et par Mustapha Bey de Patra. Les négociateurs grecs étaient menés par Colocotre Eni, Germanos Giatraco, Anagnostara et un primat de Caritena. Ils exigeaient 40 millions de piastres, les armées la moitié des effets des habitants de la ville, en échange du libre passage vers Kalamata puis l'Afrique. Pendant 10 jours, les conditions posées par les autorités ottomanes NES diminuèrent rapidement. Les assiégeants désiraient aussi que le siège s'achève rapidement avant que le climat le rende difficile puis impossible. Le plateau de Tripolisa est un des rares lieux de Grèce avec un climat continental. La chaleur y est étouffante l'été, les pluies torrentielles à l'automne et l'hiver, gel et neige sont au rendez-vous. Les Grecs ne voulaient pas subir ces rigueurs du climat. Avec l'équinoxe, grains et vents commencèrent à se multiplier et des Grecs tombèrent malades, d'autant plus que la faim commençait à menacer les assiégeants eux-mêmes, dont les rations avaient été réduites. Il y eut de nombreuses négociations séparées donnant lieu à des accords particuliers. Les Albanais obtinrent le libre passage. Ils furent autorisés à rejoindre l'Épire avec armes et bagages, à condition qu'ils rejoignent Ali Pacha insurgé, ou tout au moins qu'ils ne combattent pas contre des Grecs. Les Turcs originaires de la ville magnote de Varduni traitèrent avec leurs anciens voisins grecs et furent autorisés à traverser les lignes. Boubulina elle-même aurait permis à des femmes turques d'acheter, au prix de leurs bijoux, le droit de quitter la ville. Colocotre Eni aurait vendu le libre passage à un juif, banquier du vizir, et à sa famille, pour 400,000 piastres. Le 26 septembre, il y eut aussi une quantité importante de femmes et d'enfants qui quittaient la ville, quand les portes s'ouvrirent pour les négociations. Les Grecs avaient accueilli les premiers réfugiés dans leur camp. Mais très vite, devant le danger de la disette, qui les menacerait aussi s'ils continuaient ainsi, ils commencèrent à repousser. Elles fuyèrent vers la ville, en tirant dans leur direction. Les défenseurs ne voulaient plus de ces bouches inutiles dont ils avaient réussi à se débarrasser. Ils tirèrent donc aussi dans leur direction. Les Grecs se résolurent à les recevoir. Ils les installèrent dans un camp, derrière leur ligne, sur la route de Calavrita. En pleine négociation, Dimitrio Ypsilanti quitta le siège avec la majorité des philhellènes, sauf l'artilleur français, Raibo, qui aurait préféré partir, l'intégralité de son embryon d'armée régulière et les plus gros canons. colloque entre eux ni lui aurait suggéré d'aller empêcher un potentiel débarquement turc sur la côte nord du Péloponnèse où la flotte ottomane avait commencé à se montrer. Colloque entre eux ni lui avait adjoint son propre fils, Pano. Il semblerait que Colloque entre eux ni ait ainsi trouvé le moyen d'éloigner son rival Ypsilanti et d'être sûr, avec l'aide de son fils, qu'il resterait loin. De même, il semblerait qu'Ypsilanti ait sauté sur ce prétexte pour s'éloigner de la ville et ne pas partager la responsabilité des événements qui se profilaient. En effet, fin juillet, quand la citadelle de Navarin avait été prise, un accord avait été conclu mais n'avait pas été respecté par les Grecs, qui avaient malgré tout eu et l'intégralité de la garnison. Ypsilanti ne souhaitait pas exposer les troupes régulières. Il avait eu tant de difficultés à créer et à discipliner, à un mauvais exemple, de pillages sans respect des ordres et des accords. La prise de la ville. Pendant que les Grecs et les Ottomans négociaient la reddition de la ville, les Grecs négociaient entre eux le partage du butin. Si la ville se rendait, les soldats, qui n'avaient pas été payés depuis le début du siège, recevraient les deux tiers du butin et le dernier tiers serait versé au trésor national. Si la ville devait être prise, les soldats obtiendraient alors les trois quarts du butin. Le partage entre les hommes serait équitable. Ceux qui gardaient l'école de contre-attaque éventuelle obtiendraient autant que ceux qui faisaient le siège. Il était prévu des parts pour les familles des combattants morts. Enfin, des primes étaient offertes pour tout Turc capturé vivant, alors que jusque-là, trois piastres étaient offertes par tête de Turc rapportés au camp, dont la quantité était telle que l'odeur incommodait Maxime Reybo. Le vendredi 5 octobre 1821, 23 septembre Julien, alors que les négociations se poursuivaient et qu'une trêve était donc plus ou moins en application, un petit groupe de Grecs s'approcha de la porte sud et de la ville pour vendre des fruits, comme c'était devenu l'habitude. Ils découvrirent qu'elle n'était plus gardée et profitèrent de l'occasion. Ils se précipitèrent dans la ville et en ouvrirent la porte principale. Une autre version suggère que les soldats de base auraient considéré que leur chef les trompait en négociant avec les assiégés, voire que leur chef était les seuls à s'enrichir pendant les négociations. Ils auraient alors attaqué pour s'emparer de leur part du butin. Les Grecs s'y engouffrèrent et commencèrent le carnage et le pillage. Selon Maxime Reybo, témoin des faits, dans le courant de la matinée, des Grecs avaient commencé à franchir la muraille sans opposition. Le canon de la forteresse dite du Grand Bastion fut alors tourné vers la partie de la ville qu'ils envahissaient. Une tour armée de 4 canons, près de la porte de Navarin, fut abandonnée par ses défenseurs ottomans qui se portèrent vers la partie de la ville où se déroulaient les combats. Reybo et ses hommes, d'origine ionienne, s'en emparèrent. Ils entournèrent les canons vers le Grand Bastion pour tenter de le réduire au silence, mais Reybo fut très vite laissé seul par ses canonniers qui préférèrent aller participer au massacre et au pillage. Le carnage et le pillage durèrent 3 jours. La quasi-totalité des Turcs furent tués. Aucun des Juifs de la ville ne fut épargné. Selon Reybo, les Grecs, alors même qu'ils s'apprêtaient à poignarder un Turc, s'arrêtaient pour aller tuer et brûler un Juif, s'ils l'apercevaient à ce moment-là. Les récits évoquent des scènes horribles. Maisons incendiées, femmes et enfants défenestrés, cadavres mutilés s'entassant sur les corps de ceux qui étaient morts précédemment de maladie, ou de faim et dévorés par des chiens, corps déterrés pour s'emparer des biens avec lesquels ils avaient été inhumés. Colloque, Trony et Giatraco, qui pénétrèrent alors à cheval dans la ville, furent incapables de faire entendre raison à leurs hommes. Ils n'entendaient même plus leur chef. Le 6 octobre, 24 septembre Julien, Anagnostara décréta une amnistie pour tous les vaincus. Elle reste à l'être morte, tout comme son interdiction de tuer Intramuros. Le pillage finit par dégénérer. Ceux qui n'avaient pu s'emparer de butin attendaient aux portes de la ville pour tuer et dépouiller les Grecs plus chanceux qu'eux. On commença alors à abattre les murailles pour quitter la ville sans danger. Dans les négociations séparées, 2000 femmes et enfants avaient été autorisés à quitter, moyennant finance, Tripolisa. Ils se trouvaient encore très près de la ville le 5 octobre. Un groupe de soldats grecs les rejoignit et les massacra. Le français Reybo réussit à sauver une jeune fille, qu'il confia ensuite à une famille corfiote. Malgré l'absence des troupes d'élite albanaise, les soldats ottomans résistèrent. Une quarantaine réussit même à se réfugier à Nopli, après s'être frayé un chemin à travers les lignes grecques. Le 8 octobre, 26 septembre Julien, les soldats ottomans retranchés dans le grand bastion, mais à court d'eau et de nourriture, se rendirent. C'était le dernier point de résistance. La ville était totalement sous contrôle grec. Quelques Ottomans eurent la vie sauve, protégés par Colloque, Trony et Petrobey. la plupart des officiers ottomans, dont le Kaya Bey Mustafa et les femmes de Kursit Pacha. Conséquences. Bilan humain. On estime qu'un peu plus de 30,000 personnes, hommes, femmes et enfants, devaient s'y trouver au début du siège. En octobre, la population était tombée à 15,000 suite aux nombreux décès à cause des combats, de la famine ou des épidémies, mais aussi grâce aux diverses évacuations négociées séparément. Les troupes grecques ne respectèrent pas les conventions militaires en vigueur alors. La garnison pouvait être passée par les armes et la ville pillée, mais les civils devaient être épargnés. Ce ne fut pas le cas. Près de 8,000 personnes furent exterminées. Teodoro Kolokotronyi écrit dans ses mémoires. Du vendredi au dimanche, les soldats grecs massacrèrent femmes, enfants et hommes. Au total, 32,000 personnes furent tuées à Tripolisa et dans ses environs. Un idriote, à lui seul, en tua plus de 90. Finalement, un messager fut envoyé et le massacre s'arrêta. On estime les pertes grecques à 300 morts ou blessés lors de combats pour la prise de la ville. Parmi celles-ci, on compte les 38 otages qui ne furent pas tués par les Ottomans, mais qui décédèrent à la suite d'abord des mauvais traitements qu'ils avaient subis, puis à cause d'un changement trop brutal de régime alimentaire. Il faudrait ajouter les morts lors des affrontements fratricides à propos du butin. Le philhellène français Claude Denis Raffenel, Histoire des événements de la Grèce. Les estime à 800. Les cadavres en décomposition, ajoutés aux mauvaises conditions d'hygiène au cours du siège, des deux côtés, entraînèrent le développement d'une épidémie, non identifiée par les témoins de l'époque, qui causa de nombreux morts et surtout un exode rapide loin de la ville et de ses pestilences. La ville presque détruite fut reconstruite par les Grecs. Elle fut à nouveau assiégée par Ibrahim Pacha, qui la prit aux Grecs au nom du sultan en juin 1825. Kolokotronyi avait essayé de brûler la ville pour empêcher Ibrahim de s'en emparer. Les troupes égyptiennes arrivèrent à temps pour éteindre l'incendie. En août 1828, alors qu'il était vaincu partout et qu'il devait évacuer le Péloponnèse, Ibrahim Pacha ordonna la destruction systématique de Tripolisa. Bilan politique en Grèce. Dès la prise de la citadelle, Kolokotronyi s'y enferma, avec quelques-uns de ses hommes et membres de sa famille, et s'empara de toutes les richesses qui y avaient été accumulées. Cette fortune lui servit durant la suite de la guerre, surtout pendant les guerres civiles entre Grecs, puisqu'il pouvait solder lui-même ses fidèles, sans dépendre du pouvoir. Il profita aussi des retombées politiques de sa victoire. Il avait été un des principaux avocats de la prise de la ville, qu'il avait réalisée lui-même. Il apparaissait donc comme un stratège victorieux. Il devint de fait le véritable commandant en chef des troupes grecques, tandis que l'étoile d'Ypsilanti pâlissait. La prise de Tripolisa entraîna un flottement dans la guerre. Un très grand nombre d'hommes avaient été rassemblés au moment du siège. Les effectifs diminuèrent très rapidement. Une bonne partie s'en alla mettre à l'abri son butin et d'autres, considérant que la guerre était finie, rentrèrent purement et simplement chez eux avec leur butin. Les troupes des divers capitaines furent très fortement réduites. À l'Assemblée nationale d'Épidaure, qui s'ouvrit à la fin de l'année, le parti militaire se trouva en position de faiblesse face au parti des politiques. L'opinion occidentale. Si les défaites et les massacres subis par les Grecs émurent l'opinion internationale et entraînèrent le développement du philhellénisme, le massacre des Turcs de Tripolisa n'eut pas l'effet inverse. Un des seuls philhellènes à réagir négativement fut l'Écossais Thomas Gordon. Écœuré, il abandonna la cause grecque, après avoir été témoin de la prise de cette ville. Il n'accepta de revenir, à ses propres conditions, que 5 ans plus tard. Quand il ne fut pas purement et simplement ignoré, le massacre fut le plus souvent excusé en Occident. Si les journaux rapportaient les exactions ottomanes, celles des Grecs étaient passées sous silence. On peut lire dans le Nils Register de 1822 à propos des Turcs morts à Tripolisa. S'ils n'avaient pas été tués et, ils auraient certainement massacré les Grecs. Le massacre fut aussi justifié a posteriori par les souffrances endurées par les Grecs du temps de l'occupation ottomane et lors des premiers mois de la guerre. Ainsi, le philhellène Maxime Reybo, avant d'évoquer le massacre, écrit « Hélas, une population considérable devait être offerte aux Mannes des victimes de Smyrne, Constantinople, Scalanova et Aivalie et de nouvelles douleurs, de nouveaux outrages pour l'humanité, allaient venger 4 siècles d'oppression et d'injures. » L'historien français Camille Lénadier, dans le tome consacré à la Grèce dans son histoire des peuples et des révolutions, écrit en 1847, page 135-136. Les Grecs noyèrent, pour ainsi dire, dans une mer de sang, les injures des veaux répandant des siècles. Toutes les dettes contractées envers la porte, durant tant d'années, et en un si grand nombre de lieux, furent payées dans les trois espaces d'une nuit et d'une ville. On aurait toujours ignoré jusqu'où avait été l'oppression musulmane, si on n'avait pas vu jusqu'où allait le ressentiment des victimes. L'historien grec Constantin Paparagopoulos écrivit, laconiquement, dans le tome consacré à la guerre d'indépendance de son Histoire de la Grèce moderne, paru en 1858. Le 23 septembre, Tripoli, Tripolisa, elle-même, alors capitale du Péloponnèse, fut prise d'assaut. Encore aujourd'hui, l'événement est à peine évoqué, voire remis. C'était le cas dans les manuels grecs d'histoire à la fin des années 1980, où il était rapporté ainsi. L'armée grecque s'engouffra dans la ville, et il est impossible de décrire ce qui suivit. Plus récemment, le Guide bleu. Grèce continentale. Dans son édition de 2006, propose à propos de la ville de Tripoli. Création turque incendiée par Ibrahim Pacha, pendant la guerre d'indépendance.